Merci, cher François, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis. Difficile tâche que celle de conclure. On a toujours peur que ce soit trop tôt, soit trop tard. Je me dis que sur un malentendu, ça peut marcher. C'est d'autant plus difficile qu'il me revient la tâche de parler après le professeur Waxman, qui était le président de notre jury et qui s'est dit en plus rassuré de ne s'être pas trompé en nous entendant. Mais vous ne m'aviez pas encore entendu. Et encore plus difficile que François a donné une introduction qui était véritablement éblouissante. On a tous compris pourquoi il était major. Vous allez tous comprendre pourquoi j'étais beaucoup plus loin dans le classement. Monsieur le Président, vous aviez eu cette citation de Cyrano de Bergerac. J'aurais cette citation des fourberies de Scapin, je crois, mais qu'allait-il faire dans cette galère ? Je me la suis infligée tout seul, à vrai dire, parce que je savais que je n'aurais pas le temps d'écrire un papier et que je n'ai pas eu le courage de certains de venir sans rien faire. Et que je me suis dit que ce serait un moyen de couper la poire en deux. L'impression de départ que j'ai eue quand tu nous as proposé ce thème était finalement l'impression que tu as évoquée en introduction, c'est-à-dire que la neutralité, c'était la grisaille, le ni-ni, l'indifférence, une notion qui est sans éclat, sans passion, si on cite la définition usuelle du Robert. Madame Le Doyen évoquait, elle, l'immobilisme, la passivité, vous avez évoqué, Monsieur le Président, la neutralité de la plante verte. Et peut-être parce que j'ai perçu la notion du point de vue de l'internationaliste. Muriel, tu l'as rappelé, le droit international et peut-être cette matière, ce champ du droit où s'exprime la quintessence de la neutralité à travers le statut de l'État neutre, dont la Suisse est généralement citée en exemple et qui évidemment ne rappelle pas les meilleurs souvenirs et n'incite pas, pour tout dire, à préférer la neutralité à l'engagement. Ce d'autant plus que le droit, sans doute davantage d'ailleurs à première vue que la justice, semble en lui-même un instrument non neutre. Ça a été rappelé souvent, un instrument qui, précisément, est un instrument de modification de la société, d'institutionnalisation de la société. Emmanuel de Cruchanel l'a rappelé, tu l'as rappelé aussi, François. La neutralité et le droit seraient donc, c'est Nicolas Chifflot qui l'a dit, antinomiques. Mais ce colloque a eu cet effet de faire évoluer la vision que j'avais de la neutralité, du fait des définitions qui ont été données et aussi de ses fonctions, même si l'une ne va pas sans l'autre. Ce colloque était d'abord évidemment l'occasion de tenter une définition de la neutralité. C'était d'abord un jeu définitionnel. Qu'est-ce que la neutralité ? Dans les champs doctrinaux, dans les champs juridiques, dans la pratique aussi. Y a-t-il une différence, si oui laquelle, entre neutralité pardon, et d'autres termes, impartialité, égalité, non-discrimination ? Emmanuel de Cruchanel s'est posé la question de la différence entre neutralité et égalité. Géraldine Giraudeau a rappelé que la neutralité du net, c'est la non-discrimination. Dans le traitement du trafic, Gaël Marty a fait de l'indépendance un élément de la neutralité. Alors, comment distinguer ces différents termes ? Bon, ce qui est apparu, c'est qu'on pouvait d'abord prendre la neutralité comme un élément englobant, car constitué précisément de ces autres notions qui ainsi lui donnent sa substance et aident à penser sa signification. En ce sens, pour être, ou à tout le moins pour paraître neutre, Thomas Perroux et Julien Martin ont rappelé l'importance de cette distinction, il faudrait tout à la fois être indépendant, impartial ou encore égalitaire, équitable. Gaël Marty, par exemple, en ce sens, a fait de l'indépendance de la CJUE un élément de sa neutralité, indépendance à laquelle s'ajoutait l'inamovibilité des juges ou encore l'incompatibilité de la fonction de juge à la CJUE avec d'autres fonctions. C'est aussi la neutralité, on l'a vu, une notion beaucoup plus spécifique. C'est dessiné, je crois, au cours du colloque, une signification propre de la neutralité. En cela, elle se distinguerait notamment, si l'on veut d'abord la définir négativement, de l'impartialité, surtout dans le domaine juridictionnel. Alexandre Ciodo a cité Motulski qui distinguait expressément impartialité et neutralité. Ainsi, l'impartialité, et c'est cette fois Mathieu Dizan qui le présentait sous ce jour, l'impartialité, c'est l'examen avec la même attention des prétentions des parties, prendre en compte de manière similaire les éléments favorables et défavorables à chacune d'elles. Le juge constitutionnel ou administratif est en ce sens impartial, on peut l'espérer, mais neutre certainement pas, ne serait-ce parce que, en toute hypothèse, le juge devra trancher un litige. Trancher, opter, choisir, en ce sens, c'est n'être pas neutre. Mais peut aussi se dessiner une définition positive de la neutralité. La neutralité, cette fois, c'est l'abstention, l'absence de parti pris, le non-engagement dans un choix axiologique par définition, dont l'acteur sous examen dispose, mais auquel il renonce. C'est cette définition qui illustre peut-être le mieux la neutralité de l'impôt dont on a entendu parler, ou encore la neutralité en matière de commande publique. L'État, les personnes publiques ont potentiellement à leur disposition de vastes choix quant à l'orientation de leur politique fiscale ou d'achat, mais elles renoncent pourtant à certains de ces choix, et c'est ce qui permet de les définir comme neutres. La possibilité, par exemple, pour une personne publique de modifier par l'impôt les préférences des agents économiques ou de poursuivre d'autres objectifs que celui de l'achat au meilleur prix dans le cadre de la commande publique est neutralisée. La personne publique peut alors se définir comme neutre. En ce sens, je crois qu'il ne faut pas s'y tromper. Et c'est, je crois, l'un des points qui a été le plus intéressant. La neutralité est peut-être un vœu pieux, comme tu le disais, Nicolas, et comme le disent également les tenants d'analyse critique du droit dont nous a parlé Isabelle Boukobza, mais elle n'est un vœu pieux que si elle est comprise comme un absolu, qui est par définition inatteignable. La neutralité, ce n'est pas ça. La neutralité, c'est le renoncement, pour des raisons politiques, économiques ou morales, que sais-je, de prendre parti là où l'acteur concerné le pourrait. Et le faire, bien sûr, pour certaines raisons. Ce renoncement n'est pas nécessairement un non-choix, une neutralité par le vide, comme vous l'évoquiez, Monsieur le Président, mais le choix de renoncer à certaines options. Les communications de ce matin, je crois, l'ont particulièrement bien montré et répondent finalement à la question, fameuse question d'hier, à la question de savoir si l'affirmation selon laquelle l'état d'urgence est une atteinte aux libertés, si cette affirmation est une affirmation neutre ou pas, on ne peut que répondre qu'il n'y a pas d'affirmation neutre en elle-même, mais qu'il n'est d'affirmation neutre que si les choix auxquels la neutralité permet de renoncer sont énoncés et définis. La neutralité chimique dont a parlé Étienne Muller tout à l'heure est d'ailleurs assez révélatrice. Une solution neutre, c'est Wikipédia qui me l'a dit, est une solution présentant un pH égal à 7. Mais sans convention, sans accord sur ce choix du pH 7 comme représentant la neutralité, cette neutralité est dépourvue de toute signification. Cela m'amène à la question des fonctions de la neutralité, qui ont également été extrêmement importantes dans nos débats. La neutralité se comprend d'autant mieux que ses fonctions sont analysées. Or, j'ai eu l'impression que la fonction de la neutralité était finalement assez facile à saisir. La neutralité a pour fonction de placer celui à qui elle s'impose, ou qui l'a choisi, une position hors jeu, au-dessus de la mêlée. Sylvain, tu l'évoquais tout à l'heure, dans un domaine qui s'y prête, mais qui permettait de bien saisir cette notion. Ainsi aussi du jury constitutionnel qu'évoquait Arnaud Le Pilouer, qui, parce qu'il doit s'assurer que chaque autorité reste dans le champ de ses compétences, doit être lui-même hors de cette question de la répartition des compétences. Il en est de même de la neutralité politique dont a parlé Julien Martin, qui a pour fonction, selon tes termes Julien, d'éviter la politisation effective de l'administration. Et l'on retrouve ici l'importance prise par la neutralité dans les années 70 chez Rawls et Dworkin, notamment, tel que ça a été évoqué hier. La neutralité du pouvoir à l'égard des opinions religieuses et politiques a pour fonction de placer l'État en dehors d'un jeu dangereux pour sa stabilité, sa légitimité, ce que vous avez rappelé, Monsieur le Président, en citant la Cour EDH et en montrant aussi, il ne faut évidemment pas se le cacher, toutes les difficultés de cet exercice. On comprend aussi sous cet angle cette ingénierie de la neutralité qui a été évoquée à plusieurs reprises, là encore, dans les communications. La procédure constitutionnelle, la procédure administrative est ici déterminante. Alexandre Ciodo, Mathieu Dizan, Arnaud Lepilouer, Thomas Perroux ont évoqué comment ces procédures s'agençaient ou non, de telle manière à s'assurer de l'effectivité de la neutralité. L'analyse des pouvoirs du juge administratif, la pratique des portes étroites devant le Conseil constitutionnel, l'analyse de la jurisprudence de la Cour EDH ont montré que cette ingénierie pouvait être particulièrement difficile et qu'elle supposait encore de nombreux progrès. Mais c'est aussi cette fonction de la neutralité qui m'a le plus évidemment fait comprendre, au cours des différentes communications, de son intérêt. En particulier pour les professeurs de droit, puisque c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui, et plus largement pour ceux qui entendent pratiquer le droit ou le commenter, les juristes au sens large. Et si... Pour le coup, la neutralité m'est parue une notion particulièrement intéressante, à l'inverse peut-être de ma première perception du sujet, c'est qu'ici, il me semble que l'exigence de neutralité n'est pas synonyme de grisaille, de nini ou de renoncement. Ici, la neutralité, et tu l'évoquais François en introduction, de même que Madame le Doyen, la neutralité est bien synonyme d'objectivité, de retrait du jeu des passions humaines, de l'homme avec ses influences, ses travers, comme le disait de manière bien connue la Ferrière. Et cela grâce à ce qu'on pourrait appeler une ingénierie de la science et de la raison qui nous fournit des instruments pour ce faire, à commencer, Nicolas Chifflot le rappelait, par le débat, la confrontation des différents arguments. Le juriste, certes, puisque c'était la polémique du premier débat, ne doit peut-être pas se taire à proprement parler. Mais il peut être une figure du débat public, mais précisément une figure neutre en ce sens, et c'est une figure que ce débat, je crois, ne connaît plus trop, en ce sens qu'il serait un commentateur le plus objectif possible. Or, il n'y en a plus dans le débat public. Même le président de la République a montré ces derniers jours qu'il n'avait pas cette faculté d'être neutre, alors que c'est normalement son rôle en tant que garant des institutions. Ici, le juriste, le professeur de droit, pourrait être ce commentateur neutre, c'est-à-dire hors d'un jeu qui ne connaît plus de ses commentateurs. Dans cette perspective, le burkini, pour rappeler ce que l'un d'entre nous disait ailleurs, le burkini n'est pas ce vêtement religieux qui attire et attise toutes les passions, c'est un voile imperméable. Le crucifix est un... n'est pas, alors j'ai pas noté exactement la citation, n'est pas un signe religieux fort, c'est ça, est un, voilà. Mais c'est simplement deux morceaux de bois avec un petit bonhomme accroché dessus. C'est une observation objective du débat. Il y a en ce sens, je crois, comme tu le disais Muriel, dans un autre domaine là encore, un nécessaire retour à la neutralité, comme retour à un débat raisonnable plutôt que passionné, ce débat que, grâce à François, grâce à l'Université de Tours, à Monsieur le Président du jury et aux membres du jury, nous avons pu avoir durant ces deux jours. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Il me reste, à vous remercier toutes et tous pour votre présence, votre participation active. Merci beaucoup. Et donc, à dans deux ans. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.